Léa Lubricante, comment s'intitule cette nouvelle exposition à la VRAC ?
Alors, c'est Red Cloud, et c'est le nom d'un grand chef indien, donc un grand chef Sioux, et voilà, reconnu comme un grand chef de guerre. C'est pour ça que j'ai choisi ce chef en particulier.
Quelle relation avec ce que les visiteurs vont découvrir dans la vitrine ?
Alors, ce qu'ils vont découvrir, c'est une installation qui est vraiment une suite et dans la continuité de mon travail habituel. C'est donc j'utilise des matériaux de guerre. Donc ici, je me suis servi d'une veste américaine guerre du Vietnam qui a réellement été portée, donc qui est chargée aussi par cet aspect historique, charge de la personne qui l'a eu. Il y a c'est un ensemble de pièces, donc il y a cette veste qui se transforme progressivement en veste de chaman. Donc il y a vraiment des centaines de plumes qui ont été ajoutées à cette veste. Et sinon, il y a une autre pièce donc, qui est un néon composé de deux bandes mitrailleuses donc, qui sont utilisées vraiment dans les conflits encore actuellement. C'est du matériel guerrier récent. Et pour moi, c'était une sorte d'analogie aussi de l'habit des chefs de guerre en particulier, c'est ce plastron en perles, en fait, qui reprend cette forme de différents éléments horizontaux, qui est une figure aussi assez guerrière, et qui renvoie aussi à des figures liées à organiques, par exemple mâchoire de requin, voilà, c'est un petit peu dans cet ordre-là. Ensuite, j'invite les gens à venir voir, parce que c'est difficile de décrire. Mais il y a par exemple une hache de guerre donc qui fait vraiment partie d'un lot que les soldats avaient sur eux en fait. Pendant celui-là, ça correspond par pur hasard à la Première Guerre mondiale et c'est qui est transformé en tomahawk donc avec un travail de tressage qui est vraiment traditionnel des tressages amérindiens. Et vous avez aussi...
Et au sol, il y a, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une plage ou une arène, en fait, d'un sable fait de douille de balles, c'est ça ?
Oui, voilà, le sol est recouvert de douille. Et vous avez aussi au mur une petite roquette, qui est une pièce qui fait partie d'une série qui s'appelle Guerre de tribus, qui est aussi un mix d'armes occidentales avec des tressages de guerre amérindiens. Donc j'essaie toujours de me rapprocher d'une certaine vérité des apparats guerriers. C'est assez documenté par rapport à ça. Et après, ces idées me sont venues beaucoup en essayant de rencontrer des acteurs du monde amérindien, notamment Arlim Geronimo, qui est un des descendants de Geronimo. Et ce qui m'a vraiment intéressée chez lui, c'est qu'il a donc il a fait la guerre du Vietnam et son père a fait le débarquement en Normandie et ils sont très fiers de ça. Enfin, il y a une vraie un vrai respect pour l'armée, pour la chose guerrière, parce que ils le voient vraiment comme dans leur tradition cette activité guerrière. Comme pour les Indiens, c'est très, très valorisant, ça fait même peut-être partie de la spiritualité, ce qui est difficile à comprendre avec un regard occidental. Et c'est un petit peu ces contradictions qui m'intéressent. Et cette transformation de cette énergie guerrière en l'énergie aussi spirituelle, ce que ça peut apporter, l'énergie du combat et en même temps la spiritualité, un peu ce mix-là.
Pour autant, la manière de faire la guerre, elle est bien différente entre le guerrier amérindien qui dispose de son, en quelque sorte, de son libre choix de participer ou non au conflit et la manière dont on fait les guerres dans les armées modernes occidentales.
Ouais, ça c'est c'est une vision un peu peut-être fantasmée parce que c'est il y a vraiment du coup, je ne veux pas rentrer dans des trucs forcément historiques ou très précis, mais il y a quand même ce côté où on respecte sa tribu et on n'est pas forcément en accord avec forcément les choix. Enfin, il y a quand même cet effet aussi. Mais c'est vrai qu'il est peut-être plus lié à un choix personnel parce que c'est une question d'honneur. Mais c'est, y a quand même des valeurs en fait, qui passent d'une culture à l'autre. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est tous les Américains sont appropriés absolument tous les symboles amérindiens. Donc l'oiseau tonnerre qui est sur beaucoup d'avions, beaucoup de médailles, les flèches. Ils sont appropriés sur tout le champ militaire et tout le champ sportif aussi, toute l'iconographie amérindienne, ce qui fait très débat dans les communautés aussi actuellement, notamment l'usage de la coiffe, l'usage des certains symboles sacrés. Donc, mon travail met en jeu un petit peu ces questions-là. Et c'est aussi, pour moi, un domaine de recherche. Enfin, je suis allée dans plusieurs réserves. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je... Voilà, un dialogue aussi avec des acteurs vraiment sur place.
Alors, vous insistez sur le fait que la veste militaire qui est présentée dans l'exposition a été portée. Mmh. Est-ce que le rapport au corps, c'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, que ce soit... Donc le corps présent, ce que je fais aussi de la performance, des actions. Donc je mets des fois en jeu mon corps. J'invite d'autres personnes aussi à, par exemple comme dans les concerts d'obus où j'invite des gens à venir jouer sur des obus. Et il y a aussi le corps qui est absent mais qui est très présent dans le matériel militaire, quoi, que ce soit les armes de poing, tout ce qui est les tenues, aussi la hache, etc. C'est des éléments qui sont toujours très choyés par leurs propriétaires. Il y a une charge qui est placée à l'intérieur, une charge presque... Il y a quelque chose d'assez chamanique, même si la personne... nos sociétés, on n'a pas forcément conscience, mais il y a un fétichisme, ces objets sont chargés pour la personne à qui elles appartiennent d'une certaine force, même de protection. Donc c'est des éléments qui sont plus proches les uns des autres que ce qu'on peut imaginer. Enfin, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ces objets-là. La plupart des armes sont... gravés par leurs propriétaires, de petits symboles, de petites choses protectrices. Donc on sait que dans les tranchées, parce qu'on connaît juste le fait dans les tranchées, mais il y a de l'art de tranchées de toutes les guerres, entre guillemets. Même je collectionne aussi les objets guerre du Vietnam qui sont gravés par les militaires, qui sont assez, assez intéressants aussi. Enfin, il y a toujours ce besoin de métaphysique, de ramener du spirituel dans ces objets. Enfin, je l'ai juste fait ressortir, mais c'était là avant. Enfin, c'était là.
Ah oui, c'était là avant, puisque je crois que même dans dans l'Antiquité, les balles de fronde romaines étaient parfois gravées par leurs utilisateurs.
Alors après, il y a le côté extrêmement cynique des petits mots qui sont peints sur les obus. Bonjour chez vous, etc. Et y a les deux aspects, quoi. C'est vraiment des objets qui, on va dire, qui mettent en avant vraiment ce qu'est la nature humaine dans tous ces champs possibles, que ce soit même l'humour très noir, évidemment la violence et aussi la métaphysique, la spiritualité et la protection. Et chez les Indiens, il y a quelque chose de très fort qui me touche beaucoup, c'est la réparation, de comment se réparer son histoire, réparer par des rituels. Et c'est un petit peu l'idée d'opérer une certaine forme de réparation. En utiliser ces objets pour les amener ailleurs, donc dans le champ de l'art, mais aussi dans un champ méditatif qui peut amener une réflexion sur
d'autres aspects. Vous parlez des contraires, par exemple ?
Oui, après, il y a... je travaille aussi beaucoup en parallèle sur des conceptions bouddhistes qui sont, par exemple, la non-dualité. C'est des champs qui m'intéressent. Et moi, je vois pas trop la dualité, par exemple, dans mon travail. Les gens disent toujours c'est guerre et paix. Mais pour moi, c'est plutôt les différents aspects d'une même face. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est plus complexe, en fait, que... violence, douceur, etc. Enfin, pour moi, c'est... quelque chose de plus complexe.
Mais le fait d'utiliser ces objets, ces armes, ces munitions, etc., et d'en faire autre chose, ça révèle aussi une certaine esthétique de la guerre, en quelque sorte.
Oui, ce qui... Après, c'est vrai, ce qu'on peut... Parce que tout le monde peut constater, c'est que les objets militaires sont assez parfaits. Enfin, il y a ce côté... Au niveau du design, au niveau de la conception, les matériaux choisis sont toujours assez nobles. Les balles, comme vous voyez, c'est des matériaux laiton, cuivre, on est toujours dans des matériaux assez exceptionnels. Les habits militaires sont souvent des matériaux vraiment très haut de gamme. Enfin, on sent que c'est des éléments qui... très constitutif de la nature humaine. On sent que ça représente la personne, qu'il y a quelque chose de qui va plus loin que les apparences, en fait. Donc c'est un petit peu ce champ-là qui m'intéresse. Et aussi, je veux pas non plus être dans la fascination pour des objets de mort. Hein. C'est pas morbide, mais c'est essayer d'en faire autre chose, quoi. Alors en effet, ça donne un... Du coup, une certaine esthétique assez, qui est très très séduisante, quoi, séductrice. Mais en même temps, les armes sont désactivées, elles sont neutralisées complètement.
Ces objets aussi, ils sont le produit d'une industrialisation. Donc ils sont reproductibles à l'infini, en fait. Alors que dans les objets chamaniques que vous mettez en scène, en fait, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'unique, de l'unicité.
Oui, de l'artisanat, le rapport aussi à des matériaux très très fragiles et périssables, en opposition à nos matériaux ultra sophistiqués puis robustes, et là, c'est aussi cette cette dualité, oui. Oshichuki Oichi Choza Otakagami Ga Waji Echela Yechetu Ukita makoche ichupikta keapi naha ichupi huse he sapaki ukita wapi tohini wiope uyompikte shnero oichi choza yupsake keha mahpia luta eyalo.
L'affiche de l'exposition présente un genre de masque qui est piqué de fléchettes empennées avec la bannière étoilée. Voilà. Ce masque, il vient d'où ?
Je ne sais pas exactement. Mais disons que je chine énormément. Et donc, je l'ai trouvé. Je pense que c'est Nouveau-Mexique, mais je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas, l'Indien représenté... à les attributs d'un Indien des plaines, et voilà, c'est... Je sais pas exactement, ouais, là, je peux pas vous...
la couleur dorée, la dorure, comme ça pourrait renvoyer aussi au masque d'Agamemnon à Mycène.
Oui, c'est vrai, oui. Mais disons que le doré renvoie dans toutes les traditions à une figure, les bouddhistes diraient illuminée, mais quelque chose qui a atteint une certaine forme de perfection, de sagesse. Donc c'est un petit peu cette idée de... Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de pièces qui se font par le visuel et le formel, en fait, où j'ai mieux pas plaqué après forcément des idées toutes faites dessus. Et c'était plus une évidence. Enfin, beaucoup de pièces pour moi, j'ai un petit peu, je les vois comme une forme d'évidence. Après, je me rends compte que tout est cohérent, mais c'est vraiment spontané souvent. Et puis c'est c'est vrai que c'est un sujet voilà, qui me préoccupe, qui est très présent ouais, dans mes recherches. Dans... C'est assez difficile de d'expliquer pourquoi. Ouais. C'est aussi des esthétiques qui m'interpellent. Les drapeaux, enfin, je travaille beaucoup avec les drapeaux, les médailles. Je réalise par exemple des pièces qui transforment les médailles militaires en tableaux, vraiment en œuvres. Et
c'est la pièce Dripping Medals.
Oui, ouais. On s'aperçoit vraiment que les matériaux militaires peuvent devenir quasiment psychédéliques, complètement. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là.
Il y a une forme de guerre indienne qui était en train de renaître il n'y a pas très longtemps autour du pipeline, du Dakota Access Pipeline. Vous avez suivi cette histoire ?
Oui, j'ai suivi et la fin est assez triste. Ils ont brûlé leur campement. Il y a quelque chose qui est toujours chez les Amérindiens de l'ordre de la réparation. C'était cette idée, ça n'a pas marché, on va brûler aussi, on va nettoyer, on va pas les laisser détruire. Je trouve que c'est intéressant parce que pour la plupart, ils ont perdu quasiment intégralement leur culture, comme par exemple les Indiens Hurons au Canada. Et les jeunes générations font vraiment un travail de recherche de la langue, des sons, des pratiques qu'il pouvait y avoir de guérisseurs. C'est assez intéressant d'avoir accès en fait, aux recherches qu'ils font en ce moment. Et j'ai... aussi fait des conférences dans des universités amérindiennes avec un ami huron qui s'appelle Guissiou Idurant, qui est vraiment spécialiste. Il est, je vais retrouver le nom, sociologue de l'art amérindien aussi autochtone et contemporain. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on s'imagine toujours qu'il n'y a que de l'artisanat, mais il y a vraiment aussi des personnes maintenant qui, issues de ces communautés, qui font des écoles d'art, puis qui ont un regard assez intéressant si sur l'art. C'est toujours empreint de réparation, du coup, mais... Ouais, donc c'est des univers ouais, que je côtoie.
Et vous, comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ces sujets ? Est-ce que c'est votre démarche artistique qui vous a porté vers les Amérindiens, vers l'Amérique, ou est-ce que c'était déjà un intérêt qui existait au préalable ?
Oui, j'ai toujours lu beaucoup, assez bizarrement, sur le Tibet, la Mongolie, les pratiques chamaniques de ces zones et les Amérindiens. Mais ensuite, on s'aperçoit que c'est assez logique que historiquement, enfin, on pense que les Amérindiens descendent des Mongols. Enfin, c'est des cultures qui ont de grands points communs et une culture animiste qui m'a toujours vraiment fascinée. Et j'ai toujours moi-même été assez animiste, enfin, en relation vraiment avec les insectes, les animaux très très proches, et aussi la force des objets. J'ai toujours été captée par ça s'est fait assez naturellement dans mes recherches. Puis après, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts de Caen, j'ai découvert vraiment une ville qui avait été détruite par la guerre, son histoire, ça a vraiment beaucoup résonné. Et j'ai pu accéder grâce à des démineurs, en fait, à des matériaux de guerre. Puis c'est un petit peu parti comme ça. Et je me suis aperçue que ces sociétés qui m'intéressaient pour ces aspects animistes et chamaniques étaient également des sociétés guerrières très, très élaborées et qui plaçait cette énergie aussi dans un champ spirituel. Donc ça s'est fait assez, assez naturellement. Oui, c'est pas vraiment... c'est difficilement explicable de façon rationnelle. C'est vraiment plus des intuitions qui, à chaque fois, m'ont emmené à fréquenter les gens. Puis un travail que je fais actuellement avec Corinne Sombrin, qui est... une personne qui est chamane et aussi écrivain. Et en fait, elle a écrit de nombreux livres sur ses voyages en Mongolie, sur vraiment quelqu'un de passionnant. Donc j'étais très fan. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer aux Beaux-Arts de Paris grâce à Jean-Luc Villemoute, qui était mon prof à l'époque. Et depuis cette année, on a monté un projet ensemble. C'est un projet qui s'appelle Spirits of War. Et j'emmène des acteurs du milieu de l'invisible à Verdun, en fait. Donc c'est des médiums, des chamans, et ça prendra la forme d'une installation sonore, vidéo, qui fera suite à ces expériences. Et donc c'est un petit peu le chemin sur lequel je suis en ce moment, après avoir vraiment pris tous les objets, pris tout ce qui était possible, aller un peu sur le champ de la mémoire des lieux, qu'est-ce qui peut se passer, et de façon pas du tout New Age ou Baba Cool, mais vraiment dans une optique de recherche contemporaine avec toutes les nouvelles découvertes qui se passent en ce moment sur les états modifiés de conscience, sur les théories quantiques, etc. Donc ce serait plutôt voir ce qui peut se passer dans ce champ-là. Est-ce que mener une expérience et trouver une forme plastique à cette expérience? Et pour l'instant, c'est déjà très riche. Beaucoup de gens se sont agrégés au projet, dont beaucoup de spécialistes de Verdun, d'historiens. Je ne pensais pas que ça allait intéresser ces gens-là, qui ont plutôt une approche très historique, scientifique. Mais disons que quand je m'intéresse à quelque chose, j'essaye de le ramener dans mon travail d'une manière ou d'une autre, de me dire qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que ça peut infuser de nouveaux projets. Enfin, c'est vraiment... Et disons qu'avant, j'osais moins, puis maintenant. Puis c'est vrai qu'il y a une ouverture aussi à toutes ces expérimentations, alors qu'avant, c'était passé tout de suite pour très farfelu. Maintenant, c'est plus accepté. Beaucoup de scientifiques parlent des expériences de mort imminente à la télévision. Enfin, il y a une sorte de... Ces sujets s'ouvrent, alors voilà, il faut que les artistes s'en emparent aussi, quoi. C'est... Comment dire, les gens cherchent à avoir des réponses très basiques. Et alors, quand on leur dit « Ah oui, ah bah d'accord, ton grand-père était armurier », donc d'un seul coup, tout s'explique. Et voilà, il n'y a même plus de discussion et ça leur convient. Voilà, il y a quelque chose... du coup, alors, c'est un truc très simple quand je veux me débarrasser. mais sinon, je ne pense pas que ça a vraiment de... Ça a vraiment eu d'influence dans mon travail parce que je ne l'ai pas connu. Puis il a été armurier pendant 15 ans, donc ça a été une période assez, assez courte. Mais par contre, je pense que ce qui m'a influencé, c'est que c'était un armurier de... c'était pas un revendeur, en fait. C'est quelqu'un qui avait fait l'école de Saint-Étienne et qui savait qu'on fabriquait une arme donc, de A à Z, avec, sans machine particulière, hein, vraiment... de façon très artisanale, et il réparait toutes les armes d'exception des gens qui collectionnent les armes à feu anciennes. Donc il avait une réputation vraiment d'un orfèvre des armes anciennes. Et ensuite, il est devenu vraiment artisan de haut niveau, en fait, restauration de toutes sortes d'objets. Donc je pense que c'est plutôt cet aspect... lié aux objets, à l'amour des objets, qui voilà, de la collection aussi, peut-être qui s'est transmise. Mais après, ça m'intéresse parce que c'est une anecdote, c'est drôle, quoi. La photo dans le catalogue, c'est ma grand-mère sur le seuil de l'armurerie. Et, donc c'est une image que je trouve très, très charmante, des années 60. Donc une armurerie très désuète, en pleine campagne. C'est... je fais partir un petit peu les choses de là comme une espèce de genèse, mais voilà, c'est vrai qu'après les gens se satisfaient de ça. ça leur suffit.
Pas très loin d'ici, là, sur le Larzac, il y a un camp militaire qui existe depuis plus d'un siècle et donc dans lequel se sont accumulés au fil des années des quantités assez incroyables de munitions usagées. La question du devenir se pose, elle se pose à différents niveaux d'ailleurs.
Je pense qu'il faut que j'aille les contacter peut-être. Et c'est vrai, oui, ce qui est intéressant, c'est que donc les belles armes souvent deviennent des objets muséaux assez rapidement, on les conserve. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les déchets de guerre. Et donc, il y a des études... assez intéressantes qui sont faites là-dessus. Et j'ai un ami avec qui on va aussi faire des projets, qui est un anthropologue des déchets de guerre. Et donc je ne savais pas que cette spécialité existait, et qui étudie que ça soit du paysan qui va tomber sur un obus en labourant, aux démineurs, aux personnes qui vont travailler en art dessus, qui va vraiment faire une étude complète du devenir de ces objets, de leur utilité, de ce qui peut se passer. C'est un domaine aussi qui m'intéresse, quoi. Que deviennent toutes ces productions Donc moi, j'utilise les déchets de guerre, en fait, dans mon travail. C'est un peu ça. Des choses qui, normalement, partiraient qui sont refondues, revendues à des entreprises de métaux. Mais après, c'est assez particulier parce qu'il y a des produits qui sont utilisés, donc beaucoup de matériaux dont on ne sait plus quoi faire, en fait. Hein. À Verdun, il y a un endroit où une zone de déminage où vraiment la terre est morte, quoi. C'est un endroit spécial. Je ne suis pas encore allée le voir parce que les gens n'aiment pas trop montrer ça, mais c'est vraiment... tous les produits, tous les obus ont été amenés à cette place pour être déminés. Et donc, du coup, tous les produits ont infiltré. Donc, ça fait une espèce de terre très, très noire, très bizarre.
Justement, en revenant là sur ce projet de Verdun, les chamans, souvent, ils sont dans cet état de conscience altérée, à la lisière entre la vie et la mort. Mmh. Mais un endroit comme ça, ça doit être quand même très, 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 très perturbant, on imagine, avec toute la charge qu'il y a.
En fait, ce qui est intéressant à Verdun, c'est qu'il y a les champs de bataille ont été laissés tels que, et on a planté une forêt à la main. Donc, il n'y a pas eu de reconstruction, enfin, ça a été, et il y a eu une sorte de réparation par la nature qui est assez forte. On le ressent sans avoir de don ou quelque chose particulier, on ressent une sorte de paix, enfin, quelque chose, c'est une forêt très très puissante, beaucoup beaucoup d'animaux, du coup beaucoup d'espèces animales on les trouve qu'à Verdun, certains types de grenouilles, enfin, il y a vraiment toutes sortes d'animaux qui sont revenus. Et là, du coup, la Corinne a capté beaucoup d'esprits animaux, donc il y avait quelque chose d'assez intéressant, ça mélangeait les animaux avec de temps en temps une histoire vraiment d'un soldat. Elle a eu aussi toute la vie des villages qui étaient là avant, donc c'était des transes assez belles, puisqu'on passait vraiment sur toutes sortes d'aspects. Et aussi, oui, des endroits très, très douloureux. J'avais presque mal de l'avoir mis dans cette situation. Mais voilà. Après, Corinne ferait vraiment partie des personnes qui veulent faire des expériences au maximum sans vouloir expliquer ou porter un jugement sur ce qu'ils vivent. Donc, c'était... Voilà, ça l'a intéressé, quoi. Mais certaines zones étaient très, très violentes, où elle ressentait aussi une espèce de douleur qui tellurique, en fait. Elle tremblait complètement d'une souffrance de la terre. Ouais, c'était assez chargé.
Une œuvre comme celle que tu montres sur l'affiche, il y a aussi une dimension politique, puisque tu nous montres un masque qui vient d'un peuple amérindien, d'Amérique du Sud, c'est ça? Et tu le hérisses, tu le piques de fléchettes, qui le transpercent, et leur empennage est fait de la bannière étoilée, le drapeau des États-Unis d'Amérique. Donc tu nous proposes dans cette œuvre, mais comme dans pas mal d'autres, aussi une vision politique ou géopolitique, comme dans certaines où tu peux nous montrer, par exemple, des médailles et tout ça, il y a la dimension plastique, il y a peut-être cette dimension peut-être spirituelle ou chamanique dans ces pièces, mais il y a aussi un regard politique, un regard social, parce que ces militaires sont voilà, des gens qui ont vécu, qui ont été dans des situations liées à un état politique, à un état social. Ils sont ils ont une histoire. Cette histoire, elle n'est pas purement... elle n'est pas détachée d'un réel, d'un quotidien. Et moi, c'est quelque chose que, dans tes pièces, je ressens aussi comme très présent. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot?
Il y a cette idée aussi d'utiliser des éléments politiques, une iconographie politique, des symboles pour aller dans un côté poétique, en fait, aussi utiliser vraiment cette essence de ces matériaux, et de les changer, de changer aussi leur utilité, les médailles dégoulinent, les couleurs dégoulinent. Ça devient un matériau, par exemple, pour cette pièce, Dripping Medals, complètement international. Les mérites sont réalignés, donc les médailles africaines vont côtoyer des médailles américaines, françaises, allemandes. C'est une idée de remettre quelque part, de réaligner et les mérites et les époques, parce que dans mon travail, ça mixe beaucoup toutes les guerres, tous les conflits, toutes les situations géopolitiques. Donc c'est un petit peu une idée de remettre à plat tout ça, de relire différemment ces éléments, peut-être de leur donner une forme d'équivalence, de se dire le militaire allemand nazi peut avoir sur cette pièce une équivalence avec un Italien ou un militaire chinois ou africain. Enfin, une espèce de relecture comme ça, libérée de ses poids historiques aussi. Et il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du jeu, aussi clairement, de se dire... finalement, c'est un grand théâtre.
Est-ce qu'on ne peut pas lire cette pièce-là, par exemple, du masque et des fléchettes, comme une dénonciation d'un état de fait, par exemple l'impérialisme américain sur l'Amérique du Sud, etc. Mmh. On connaît l'histoire des interventions américaines qui viennent perturber, par exemple, les processus démocratiques, etc. Bon, et aussi... puisqu'il y a l'or dans cette figure, on peut remonter au pillage des richesses, des ressources, etc.
Oui, ça mixe tout ça. Oui, c'est vraiment... non, mais c'est vrai, c'est vraiment une sorte de synthèse formelle en fait de toute cette histoire, quasiment des Incas jusqu'à à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre aussi dans mes pièces. J'aime bien l'idée que j'essaye qu'elles n'aient pas d'âge, en fait, de cette idée qui est quelque chose qui synthétise un petit peu tous les jeux de pouvoir, l'impérialisme, la domination, et qu'on ait une sensation d'un objet qui est toujours existé, qui est naturel aussi dans son... Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces objets paraissent naturels aux pacifistes et aussi à ceux qui sont de l'autre côté. Il y a quelque chose qui est assez étrange qui se passe. Donc je sais qu'il y a un truc qui m'intéresse aussi parce qu'il n'est pas lisse, en fait. Enfin, dans mon travail, une face peut-être un peu plus sombre et qui est assumée, où je l'utilise. Par exemple, dans une de mes dernières pièces, j'utilise des timbres nazis, de la période nazie. Et je suis allée chercher un mantra tibétain très spécial, qui est le mantra aux 100 syllabes pour la purification. Donc chaque timbre, en fait, est complètement recouvert de ce mantra. Et il y a aussi cette relecture historique, puisque la svastika était un symbole tibétain, indien, et qui a été... repris par les nazis qui ont fait une grande soupe New Age avec tous ces éléments. Et c'est en quelque sorte un retour au symbole réel, etc. Aussi montrer que c'est tout est un peu que de la reprise, quoi. On est un peu chaque période, tu vois, va rajouter son rajouter sa signification et ça fait. Enfin, moi, mon idée, c'est vraiment aussi de faire des pièces dont au maximum. Par exemple, une de mes pièces récentes, c'est la. Je cherche des lithographies, des photogravures de la Maison Blanche et je les passe au mercurochrome. Donc, elle devient rouge, en fait, la Maison Blanche. Et moi, c'était. Dans ma tête, c'était plus le rapport aux Indiens de tenir la Maison Rouge. Et en fait, vu qu'il y a eu Trump qui est arrivé, tout le monde m'a dit mais c'est super, c'est Trump qui défend Poutine. Et du coup, et c'est assez drôle parce qu'on se rend compte que tous les signifiants, selon le moment où on fait, ça peut l'absorber. Enfin, ça peut absorber tous les événements. Je trouve ça assez amusant.
Ça veut dire que ces pièces, en rassemblant des symboliques différentes, elles recréent du commun en quelque sorte?
Oui, enfin, je sais pas ce que tu veux dire par commun, mais ouais, des signes que finalement, des signaux que tout le monde appréhende, quelque chose, oui, qui. Après, en effet, c'est une posture, hein, c'est une posture très internationaliste, très. Il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement politique, mais après, si tu veux, c'est aux gens de le voir, de l'interpréter. Mais je vais pas forcément. Avoir une posture politique dans mon discours, mais ça transpire en fait.